Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Jérôme Chapuis.
Et avant de dialoguer à 8h15 avec les auditeurs de RTL, vous recevez ce matin Elisabeth Martichoux, le Premier ministre, Édouard Philippe.
Merci beaucoup et bonjour à vous Édouard Philippe.
Monsieur bonjour Premier Elisabeth ministre. Martichoux.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin, au lendemain du passage aux 80 km/h sur les routes secondaires. On va entendre vos arguments, les auditeurs tout à l'heure vous attendent évidemment au 32-10. On va prendre le temps d'expliquer cette mesure. Si vous permettez d'abord cette question d'actualité avec cette cavale, cette évasion spectaculaire de Redouane Faïd de la prison de Réau en Seine-et-Marne hier. Aucune trace du fuyard à cette heure.
À cette heure, les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées pour essayer de retrouver cet individu qui est un individu dangereux. Et donc, dès que l'évasion a été connue, le dispositif a été mis en place. Et la mobilisation de plus de 2900 policiers et gendarmes a été engagée pour retrouver cet individu dont nous savons qu'il est dangereux, dont nous savons qu'il est déterminé. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le retrouver le plus rapidement possible, car évidemment, une évasion de ce type n'est pas acceptable.
Aucune trace, donc, à cette heure-ci. Vous nous le confirmez. Il n'y a sans doute pas de système sans faille, par définition, monsieur le Premier ministre. Mais en 2018, s'évader en 10 minutes par hélicoptère d'une prison moderne conçue pour être ultra sécurisée, ça pose quelques questions. Lesquelles ?
Ça pose beaucoup de questions. Et l'urgence, c'est la mobilisation pour retrouver ce détenu. La deuxième urgence, c'est de comprendre comment cela a été possible. On sait que cette évasion s'est produite avec l'intervention d'un commando qui était armé, qui était très déterminé. Très bien. L'objectif, c'est de comprendre exactement. La ministre qui s'est rendue sur les lieux hier a diligenté une inspection qui doit nous permettre de savoir comment tout cela s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, alors même qu'on est dans un établissement dont le niveau de sécurité est très élevé, comment est-ce qu'il est possible d'éviter ce genre d'événement ?
Nicole Belloubet qui vient de dire sur Europe 1, sauf erreur, je ne prétends pas qu'il n'y a pas eu de défaillance. Tout est sur la table, y compris des défaillances du système pénitentiaire.
Mais quand on demande une inspection, on ne la demande pas pour faire plaisir. On la demande pour savoir. Et donc moi, je veux savoir pourquoi, comment cela s'est passé.
Et
s'il y a des conséquences à en tirer, j'en tirerai.
C'est-à-dire des sanctions au niveau, par exemple, de la direction de la prison ou des éventuelles...
Je vous ai dit clairement les choses. Quand on demande une inspection, c'est pour savoir comment ça s'est passé. S'il y a des responsabilités qui sont identifiées, j'en dirai les conséquences.
Bien, il y a des conclusions qui semblent tomber sous le sens, mais vous me direz, vous me contredites si c'est le possible, en bon français, mettre des filins anti-hélicoptères là où il n'y en avait pas.
Encore une fois, je comprends très bien que ce soit l'actualité ce matin et tout le monde va vouloir avoir son avis sur le sujet de ça. Une inspection par des professionnels a déjà été engagée. Elle nous dira si dans des endroits où normalement il n'y a pas de circulation prévenue, pas de circulation possible des prévenus, il faudrait quand même installer ces filins. Peut-être que c'est la conclusion à laquelle elle arrivera. Je ne veux pas préjuger de cette inspection. Mais ce que je vous dis clairement, c'est que cette inspection sera faite. Elle sera faite avec exigence. Et si il faut tirer des conséquences de ce qu'elle indique, nous les tirerons.
D'accord. Et vous avez une idée du délai dans lequel vous recevrez ces conclusions ?
Là encore une fois, pardon, l'urgence médiatique ne me guide pas. Je veux qu'elle soit sérieuse, cette inspection.
Si ça prend des semaines, ça prendra des semaines. C'est ce que vous nous dites.
Je veux qu'elle soit sérieuse et qu'elle nous dise clairement, après une analyse fine et poussée, un, ce qui s'est passé, et deux, ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se passe plus.
Édouard Philippe, les 80 km/h sur les routes nationales sans séparateur, c'est parti depuis hier. Vous allez défendre votre décision. Mais pour l'heure, une grande majorité de Français y sont hostiles. Du coup, sur le terrain, est-ce que vous allez la faire appliquer avec une certaine mensuétude pour donner aux Français qui ne la comprennent pas le temps de s'habituer ou avec une intransigeance des sanctions sans pitié, j'allais le dire.
Donc j'ai indiqué que cette mesure, qui est une mesure dont je comprends parfaitement et je m'y attendais en vérité, qu'elle suscite des interrogations, voire des critiques, cette mesure, elle est appliquée à partir d'hier. Et la loi, c'est la loi. Mais elle va être appliquée dans les premiers jours, peut-être les premières semaines, avec le souci de la pédagogie. Dès hier, les forces de gendarmerie, les forces de police, les préfets, ont commencé ce travail de pédagogie, ont distribué un certain nombre de documents, de façon à ce que chacun comprenne l'enjeu, chacun comprenne les motivations de la mesure. L'idée, c'est pas d'ennuyer tout le monde, l'idée, c'est pas de désavouer tel ou tel, l'idée, c'est de sauver des vies, l'idée, c'est d'éviter des blessés. Et donc, il faut l'expliquer. Il faut expliquer qu'un véhicule qui roule à 80 km/h, quand il freine, en urgence, il s'arrête 13 mètres avant oui. le véhicule qui roule à 90 km/h. Et donc, on évite des accidents. Et quand il y a accident, on diminue la gravité, si j'ose dire, de l'accident. Et donc, on diminue le nombre de blessés.
Vous admettez que vous n'avez pas réussi à convaincre les Français, pour l'instant, 75%. C'est quand même un échec. Une politique qui est mal comprise. C'est une politique qui a risque d'être mal appliquée.
Pas du tout. Il y a un moment où il faut savoir, en politique, prendre des décisions qui sont impopulaires quand on pense qu'elles sont bonnes pour le pays. Et je vais vous dire quelque chose.
Elle est mal comprise, votre mesure.
Je vais vous dire quelque chose. Je pense que notre pays souffre de ne pas avoir pris des décisions qui, certes impopulaires, auraient permis de le faire avancer. Toutes les mesures, Madame Ventura l'a dit tout à l'heure sur votre antenne, toutes les mesures en matière de sécurité routière qui ont produit des effets et qui sont maintenant considérées comme de bonnes décisions acquises, toutes ont été redoutablement critiquées au moment de leur adoption. Eh bien moi, j'assume le fait de prendre une mesure qui va sauver des vies, qui va éviter des blessés et qui produira ses effets rapidement.
C'est pas seulement la mesure en tant que telle peut-être qui n'est pas comprise. C'est un peu l'histoire du verre d'eau qui déborde. L'automobiliste, il subit la hausse du diesel, des amendes plus chères, il roule sur des routes qui ne sont pas souvent très bien entretenues et il risque de perdre son permis parce que quand on n'a plus de permis, on n'a plus de boulot, donc il risque quand même Combien de personnes utilisent leur voiture pour aller travailler, monsieur le Premier ministre?
Pardon, il
74%.
Risque aussi, il risque aussi de mourir et de subir des lésions corporelles ou cérébrales incroyablement graves et durables. Mon objectif, ce n'est pas d'ennuyer l'automobiliste qui a besoin de prendre sa voiture. Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui, le matin, prend sa voiture pour aller travailler? Il n'en est rien. Simplement, ce que je sais, c'est que vous avez, l'année dernière, 3600 personnes qui sont mortes en France. Vous avez 27 000 personnes qui ont eu des lésions cérébrales ou physiques durables, voire permanentes. Et il y a 3 ans, c'était moins. Ça veut dire que, alors même que les voitures sont de plus en plus sûres, nous le savons, alors même qu'il y a des campagnes d'information sur la sécurité routière, et nous le savons, eh bien nous sommes arrivés à une espèce de seuil qui remonte tranquillement parce que nous ne regardons pas la réalité en face. Mais cette mesure va sauver des vies et éviter des blessés.
Vous sauvez des vies. Ceux qui protestent, ce sont des irresponsables?
Non, mais je n'accuse personne. Vous savez, si je faisais l'objet de critiques aussi mesurées que les propos que je tiens, je me porterais beaucoup mieux.
Et
je
les élus qui grognent, clairement. Ils font de l'électoralisme?
Les élus qui grognent, ils grognent. Très bien. Ce que je sais, c'est que c'est déjà arrivé que les élus grognent en la matière. C'est déjà arrivé quand on a installé les radars, ou quand on est passé au permis à point, ou quand on a mis la ceinture de sécurité obligatoire. C'est déjà arrivé. Plus personne ne grogne, quelques années après, quand les résultats sont là.
Vous ne craignez pas ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'effet cumulatif de mesures qui frappent aujourd'hui les automobilistes. Ça existe. Il y a des effets de calendrier qui font qu'effectivement, il y a des mesures qui s'accumulent et qui provoquent une exaspération. Voilà, qui peut crisper la société française. C'est un sujet.
Mais je préfère qu'on trouve des solutions pour permettre un meilleur entretien des routes, ce que nous faisons accessoirement.
C'est-à-dire
un travail dans le cadre... Il ne vous a pas échappé que nous allions, à la fin de l'année, étudier ce qu'on appelle la loi d'orientation sur les mobilités. Et qu'un des éléments de la politique que nous développons, c'est une attention plus grande sur les sujets de mobilité au quotidien que sur les très grandes infrastructures. Donc, les questions d'entretien du réseau routier, les questions de formation. Des conducteurs, tout ça sont des sujets qui sont parfaitement légitimes et qui seront abordés. Mais les sujets de sécurité routière, d'ailleurs les sujets de sécurité en général, la sécurité routière, ça n'est qu'un aspect du sujet sécurité en général. Et moi, je n'ai aucune espèce de honte ou d'appréhension parce que la mesure serait impopulaire, dès lors que je pense qu'elle est bonne pour le pays.
Et tout à l'heure, vous en parlez avec les auditeurs, encore une toute petite question, vous ne regrettez pas quand même que Gérard Collomb n'ait pas été plus allant sur votre mesure? Non seulement il ne l'a pas portée alors qu'il est ministre de l'Intérieur, il devrait être en première ligne, et en plus il l'a critiquée.
Il ne l'a pas critiquée, il y a une discussion avant la prise de la décision, il y a une discussion, c'est parfaitement légitime.
Publiquement, il a dit
Il y a une discussion avant la prise de décision, et c'est parfaitement légitime. Moi je suis membre, je suis chef du gouvernement, je ne suis pas garde-chiourme. Donc que les gens discutent, qu'ils émettent des opinions, qu'ils donnent des avis, qu'ils essaient de peser sur une décision avant que la décision soit prise, je trouve ça très sain. C'est même une marque de fabrique de ce gouvernement. Une fois que la décision est prise, elle engage la totalité du gouvernement et elle est appliquée par la totalité
et
du gouvernement.
Et
je
l'ai rappelé.
Et je lui ai dit, et il le sait parfaitement, et je l'ai redit d'ailleurs en sa présence devant l'ensemble des préfets, lesquels vont mettre en œuvre cette mesure, et tout se passe de ce point de vue exactement comme cela doit se passer.
Vous avez dit, dans quelques semaines, on appliquera vraiment à la lettre les sanctions, dans quelques semaines, vous leur
non,
donnez quelques semaines.
Non, j'ai dit que la mesure s'applique.
Oui,
hier,
mais les sanctions...
Mais que nous allons faire un effort particulier de pédagogie dans les semaines qui viennent.
Donc ça veut dire que les amendes, elles vont tomber quand ?
Mais qu'est-ce, vous, les amendes, elles vont tomber quand les infractions auront été constatées. Et je me permets, Madame Martichaud, de vous dire que le produit de ces amendes ne viendra pas alimenter le budget de l'État. Il viendra alimenter le budget des établissements qui participent à la reconstruction des blessés, qui accompagnent les blessés. Vous savez, des gens qui ont perdu deux jambes ou qui ont des lésions cérébrales permanentes, et qu'il faut accompagner pour se reconstruire. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Le produit de ces amendes, il permettra de financer exclusivement
cela.
On
y reviendra tout à l'heure, monsieur le Premier ministre. La coalition allemande est menacée. Angela Merkel, très fragilisée par son ministre de l'Intérieur, en particulier sur la question des migrants. Vous êtes inquiet ce matin ?
Je ne sais pas si je suis inquiet, mais je vois bien qu'il y a une forme de tension politique au sein du gouvernement allemand, au sein de la coalition allemande, ce qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle, car quand on discute avec notre partenaire et notre ami allemand, on a envie d'avoir une très grande stabilité, stabilité économique bien entendu, mais stabilité politique.
Vous étiez hier place du Panthéon pour l'hommage unanime, très très belle cérémonie en hommage de Simone Veil, qui a été panthéonisée avec son mari Antoine. Il y a eu un discours d'Emmanuel Macron qui a été salué unanimement. Mais ces dernières semaines, monsieur le Premier ministre, le président a donné l'impression de ne plus savoir comment il doit se présenter aux Français. J'explique. Par exemple, il s'adresse à un adolescent qui lui lance « Salut Manu » en lui rappelant qu'il doit respecter la fonction. Et puis quelques jours plus tard, il fait une plaisanterie de potache sur la mafia bretonne devant le pape en Italie. Alors, en petit comité, pourquoi pas? Mais là, franchement, est-ce que c'était approprié?
Mais moi, je trouve que la cérémonie à laquelle j'ai participé hier, puisque c'était le début de votre question, était, comme vous l'avez dit, une belle cérémonie. Elle était émouvante, mais plus encore qu'émouvante, je l'ai trouvée apaisante. J'ai trouvé que c'était une façon pour la France de regarder son passé compliqué, compliqué, pas toujours simple, pas toujours glorieux à certains égards, et de l'incorporer dans son histoire. Ce qui est fascinant avec Simone Veil, c'est la capacité qu'elle a eue à non pas dénoncer les collabos, mais célébrer les justes, à reconstruire en France et en Europe. Et c'est ça qu'a voulu souligner le président de la République. Et je pense qu'à chaque fois que... en conscience, en connaissant les heures sombres de notre histoire, nous soulignons ce qui est positif, nous faisons œuvre utile.
Et il a trouvé les mots justes, en tout cas hier matin.
Ah ça, j'en suis sûr.
Je vous repose la question de cette communication qui peut sembler brouillonne. Un moment, il est jupitérien, et puis un autre, encore une fois, je le disais, il fait des blagues de potage qui semblent décalées. Comment l'expliquer ?
On vit dans un monde où
maîtrisait tout, il s'autorise tout, ça traduit quoi ?
On vit dans un monde où, compte tenu de la multiplication des téléphones portables et des réseaux sociaux, on est en permanence sous l'œil, parfois déconnecté d'ailleurs, curieusement, puisque déconnecté du contexte, déconnecté de ce qui s'est dit juste avant et de ce qui va se dire juste après, sous l'œil permanent d'une caméra. Voilà, moi ce que je sais, c'est que le président de la République, il est dans la fonction. Il sait, il a pensé, et il sait ce que c'est qu'être... président de la République. Il incarne la fonction.
Il l'incarne à tout moment. Il n'y a pas des moments, encore une fois, où il s'autorise des choses qui ne sont pas comprises par les Français.
Non, moi, je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration sur la façon dont il envisage la fonction et dont il sait qu'il est tenu par la fonction.
Il y a tout, c'est d'une fluidité absolue entre vous.
Ah, ça a toujours.
Comme au premier jour, diriez-vous.
Peut-être même encore mieux qu'au premier jour, parce que maintenant, il y a une expérience de travail en commun et forcément une confiance encore accrue.
Quelques questions rapides, si vous le permettez, Édouard Philippe. Est-ce que vous allez rendre publiques les conclusions du rapport CAP 22 qui contient des propositions de réforme de l'État ?
Dans ce que je vais rendre public, c'est ce que nous allons faire pour réformer l'action publique.
Donc, est-ce
qui
que
me
ce
semble
rapport...
plus intéressant Pardon. Que n'importe quel travail, même de qualité, fait par n'importe qui.
D'accord, ça veut dire que ce rapport ne sera pas rendu public, on ira directement aux conclusions. Ma question est simple.
Votre question est simple, ma réponse est encore plus.
Mais je la comprends
pas. Ce qu'on va mettre sur la table, c'est ce que nous allons faire, nous, le gouvernement, pour transformer l'action publique. Ce que nous allons faire pour transformer l'audiovisuel public. Ce que nous allons faire pour transformer la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Dans tous les domaines où nous allons intervenir, parce qu'il faut intervenir, nous allons mettre sur la table des objets simples, clairs, identifiés de transformation publique. Nous avons commencé la réforme de l'audiovisuel public, qui est un de ces éléments.
Donc
elle a été mise sur
sur la table. Public, ce
et au fur et à mesure des semaines qui viennent, nous allons mettre sur la table ces objets. Et ces objets, madame, ces objets entre guillemets, sont des objets, ces objectifs de transformation, oui, ces moyens de transformation publique.
Ce sont des objets animés qui seront concernés. Des hommes, des femmes et des fonctionnaires.
Absolument. Ils seront débattus. Ils feront l'objet d'un débat, de critiques, de contre-propositions. Et je préfère, madame Martichoux, et c'est la réponse à votre question, que nous débattions de ce que nous voulons faire et de ce que nous allons faire, plutôt que de toute autre chose.
Rassurez-moi, j'ai bien compris. Le rapport ne sera pas rendu public. Ce seront directement...
Les propositions le seront, bien entendu, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure disponibilité, de notre volonté pour transformer tel ou tel sujet.
Bientôt l'examen de fin d'année. Pour les ministres qui vont passer quoi, leur évaluation annuelle, ça commence quand ?
Non, on n'est pas obligé de le prendre par le petit bout de la lorgnette.
Pourquoi ?
Vous savez quand...
Ça
commence demain, je crois.
Avec
que je vois
qui
Monsieur
quel est
Blanquer,
votre premier élève ?
Monsieur Blanquer, ouais. Ce qui s'agissant finalement... Mais attendez, laissez-moi répondre à votre question,
bien
puisque
sûr.
Vous l'avez posée. Quand on est ministre, comme d'ailleurs... En vérité, quand on a un travail prenant, quel qu'il soit, on n'est pas obligé d'être élu, responsable public. Quand on a un travail prenant, on a le nez dans le guidon. On bosse, et c'est très bien ainsi, on est là pour ça, et on ne va pas se plaindre. Bon. Mais une fois qu'on a fait ça, on a parfois un besoin un petit peu de lever le nez, et de se demander, en fonction de ce qu'on voulait faire il y a un an, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien. Et d'avoir cette discussion pour recadrer les choses. C'est l'objectif avec ces ministres, c'est aussi de regarder ce que nous avons fait, et bien fait. Parce que vous parlez de plein de
ceux
choses.
Qui a été mal fait donnera lieu à un remaniement éventuel ou pas ?
Vous voyez, vous traitez ça par un angle, qui est l'angle intéressant de savoir si on va sortir une petite phrase ou pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir une conversation, les yeux dans les yeux, avec tous les ministres, pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'action collective. Vous voyez, je ne suis pas dans la sanction, je suis dans l'amélioration.
Merci Edouard Philippe d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Mais vous restez dans un quart d'heure avec les auditeurs en 32-10 et Jérôme Chapuis.
Effectivement, merci Elisabeth Martichoux, monsieur le Premier ministre, on l'a bien entendu, mon objectif n'est pas d'emmerder les automobilistes. Vous avez la parole franche ce matin, vous l'aurez avec les auditeurs à 8h15 au 32-10.